Midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Bonjour à tous, c'est l'heure closée. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. Neumann Le Chypre sans Neumann et sans Le Chypre aujourd'hui. Et oui, il ne reste plus que moi. On va revivre ensemble les meilleurs moments de l'émission, les discussions les plus animées. Mais on va aussi parler d'actualité, la vérification des passes sanitaires dans les lieux recevant du public. C'est à partir du 21 juillet. Et le 21 juillet, eh bien, c'est mercredi prochain. Dans 5 jours, les centres de vaccination sont déjà saturés. On voit des fils dans les laboratoires. L'espoir d'un été normal semble s'amenuire. On va en parler dans un instant. Et puis, qui va contrôler? Les restaurateurs doivent-ils se transformer en policiers? On en parlera à partir de midi 20. On vous attend, restaurateurs, hôteliers, clients au 32-16. Mais avant d'aller au resto, est-ce que ça ne serait pas le moment d'aller à Disney, au Louvre, au Puy du Fou, au Zoo? La Tour Eiffel rouvre ce matin après des mois de fermeture. Ça fait 3 semaines que les ascenseurs tournent à vide pour se préparer à accueillir les touristes. La jauge a baissé de moitié. À partir de mercredi, donc comme ailleurs, la Tour Eiffel ne sera qu'accessible après avoir montré son pass sanitaire. Aucun problème pour son patron, Jean-François Martins, président de la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Il était ce matin sur France Info, on l'écoute.
Alors, on est prêt à réouvrir aujourd'hui, surtout, d'abord. Ouais. On en reparlera, j'espère. Et sur le pass sanitaire, nous, on n'est pas encore prêt. Mais Dieu merci, c'est mercredi. Donc, on est en train de se parler avec à la fois les autres monuments, l'État, pour mettre tout ça en œuvre d'ici mercredi. C'est évidemment une petite charge supplémentaire, mais on sera prêt d'ici le 21.
Alors, pour la Tour Eiffel qui rouvre donc ce matin avec une jauge de 50%, 13 000 personnes par jour pourront grimper contre 25 000 en temps normal. Ça devrait pouvoir s'organiser correctement avec le pass sanitaire. Mais ailleurs, comment ça va s'organiser? On est avec Arnaud Benet, président du syndicat national Espace de loisirs d'attraction et culturel. Bonjour Arnaud Benet. Arnaud Benet. Arnaud Benet, on entendait le patron de la Tour Eiffel nous dire pas de problème, on devrait pouvoir s'organiser même si on ne sait pas encore comment on va le faire. Les autres grands opérateurs comme Disney, Parc Astérix disent on va y arriver, mais les autres, est-ce que pour les autres ça va être possible?
Non, mais les autres, l'ensemble des opérateurs du secteur des parcs de loisirs disent oui, on va pouvoir éventuellement s'organiser pour contrôler avec ça va engendrer énormément de problèmes. Et surtout, le problème principal, c'est que ça va engendrer une baisse très forte, sans doute, de la fréquentation dans nos sites, qui commençait à peine à sortir la tête de l'eau avec une saison qui s'annonçait bien meilleure que l'année dernière, même si elle a été écourtée de 2 mois. Encore une fois, on comprend bien l'objectif visé qui est l'accélération de la campagne vaccinale. Donc, on est tous pour le pass vaccinaire. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que cette mesure, si elle avait été applicable à partir du 1er septembre, aurait eu exactement le même effet de levier sur la campagne de vaccination et aurait permis de sauver les entreprises et de sauver la saison des entreprises. Puisqu'encore une fois, à partir du moment où on rentre dans une démarche vaccinale, il faut entre 1 et 3 semaines pour obtenir le rendez-vous pour le première dose, 4 semaines, deuxième dose, 1 semaine après pour avoir le passeport vaccinal. Donc on comprend bien que la mesure applicable au 21 juillet ou au 1er septembre, ça ne changeait strictement rien, sauf que ça évitait de plonger les entreprises dans la désespérance et dans des complications terribles et sans aucun doute, une très forte baisse de leur fréquentation.
Donc il y a les personnes, les consommateurs qui décident peut-être de ne pas venir dans les centres de loisirs. Il y a aussi la gestion des salariés. Un restaurateur du sud de la France me racontait ce matin que à côté de chez lui, toutes les pharmacies sont saturées par les demandes de restaurateurs et de commerçants pour leurs propres salariés. Comment ça se passe dans vos centres de loisirs?
Bah écoutez, ça se passe, nous avons obtenu un assouplissement donc pour les salariés qui ont jusqu'au 31 août ou 30 août pour se mettre en conformité avec le pass sanitaire. Mais si vous voulez, toutes ces mesures qui sont destinées à Paris, alors que 90% de nos entreprises sont en région rurale, avec des espaces de tests qui sont totalement saturés, avec des rendez-vous très longs pour obtenir la vaccination, avec en plus un public visiteur qui est majoritairement constitué de jeunes personnes. Alors c'est vrai qu'on a élargi, on a assoupli la mesure jusqu'aux 17 ans, mais on a quand même toute la tranche 18, 19, 20, etc., etc. Donc on a beaucoup effectivement de visiteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une priorisation dans la campagne de vaccination. Et aujourd'hui, avec des achats d'impulsion, puisqu'aujourd'hui, quand on va dans un parc de loisirs, la plupart du temps, on se décide le matin ou la veille ou l'avant-veille en fonction de la météo. On comprend bien que la mise en place au 21 juillet de ce pass sanitaire, si on en comprend les objectifs et qu'on partage cette mesure sur le fond, cette mesure est inacceptable sur son délai d'application, qui est le 21 juillet.
Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui va se passer mercredi? Vous n'allez pas faire de contrôle? Vous allez
si, bien sûr, on va être en conformité. Il y a eu un recours d'État qui a été déposé, un conseil d'État. Voilà, on va appliquer les mesures qu'on nous demande d'appliquer, avec beaucoup de difficultés, avec des risques de troubles à l'ordre public, puisque quand vous avez des gens qui ont fait 2-3 heures de route, il peut y avoir dans une famille des personnes qui ne sont pas en conformité avec ce pass sanitaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, bah non, vous repartez, vous refaites 3 heures de route, ou vous laissez une personne de la famille sur le parking. Encore une fois, tout ça, ce sont des complications qu'on aurait pu éviter. On partage cette idée de, on accepte et on cautionne cette idée de pass sanitaire, mais qu'on arrête de nous dire en permanence qu'on est irresponsable si on refuse ce pass sanitaire, c'est une ineptie, c'est une idiotie, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, compte tenu des délais de vaccination et de la démarche vaccinale, c'est pas ça, c'est que si on avait mis cette mise en application du pass sanitaire décidée pour les parcs de loisirs notamment et pas que à partir du 1er du 15 septembre, bien évidemment, l'effet de levier compte tenu de ce parcours vaccinal et de sa durée, l'effet de levier sur la vaccination aurait été exactement le même et on aurait évité de sacrifier des entreprises qui vont vivre une saison
très difficile. Oui, donc le délai n'est pas possible, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est de la bureaucratie en fait, par rapport à de la réalité. Merci beaucoup, Arnaud Bennett d'avoir été avec nous, président du syndicat national des espaces de loisirs, d'attraction et culturels. On va aller au 32-16.
RMC Neumann Le Chypre
32-16. On vous attend au 32-16 pour nous parler de nos vacances, puisque moi ce sera les miennes juste dans 2 heures. Vos vacances aussi, est-ce que vous avez prévu de changer de plan? Peut-être que vous vouliez aller dans un parc d'attractions, que finalement vous alliez faire autre chose. On est avec Cédric qui nous appelle de Chambéry. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Toi tu es responsable caméra. Cédric, tu as complètement changé tes plans?
Oui, une partie de mes plans, puisque je me marie toujours le 31 juillet.
Ça, c'est toujours prévu. Ça n'a pas changé.
Jusque-là, rien n'a changé. Par contre, on a annulé notre lune de miel qui était prévue à La Réunion début septembre, 2 semaines.
Oui.
Alors, on avait choisi La Réunion au mois de février quand on a réservé, parce qu'on s'est dit qu'on aurait moins de soucis, moins de contraintes, puisque ça reste la France, malgré le fait que ce soit une île. Et avec les annonces récentes de notre cher étant président, On a pris la décision d'annuler puisqu'on ma future compagne et moi sommes pas d'accord. On veut pas se faire vacciner tout simplement.
Et donc tu préfères sacrifier ta lune de miel plutôt que de te faire vacciner. Clair. Le choix est clair.
En effet. Si je dois perdre mon travail dans d'autres mesures, je le perdrai. J'estime que la dernière de nos libertés, qui est celle de disposer de notre corps, est vraiment plus forte. C'est quelque chose auquel je tiens. Alors moi, je tiens quand même à préciser que je suis quelqu'un de je suis pas quelqu'un anti-système. Ma démarche n'est pas du tout politique. J'ai jamais fait de garde à vue. J'ai mes 12 points sur mon permis. Je respecte la vie en société. Il y a aucun problème. ma compagne est cadre sup dans une boîte internationale. Enfin, je veux dire, on n'est pas des personnes.
Non, mais vous apprêtez quand même à avoir une vie sociale compliquée pour les prochains mois à venir.
Oui. Par la force des choses. Mais je suis loin d'être le seul, je pense.
Mais quand tu vois l'avenir des prochains mois et que tu te dis, bah, je m'apprête à ne pas pouvoir aller au resto, à annuler ma lune de miel, c'est quand
ça
même
fort. Ça fait longtemps
fort.
Qu'on va plus au resto.
Oui, mais tu vois l'avenir, tu vois que ça va pas changer. Tu te dis.
Moi, je pense que ça va scinder une partie de la population avec l'autre, clairement. Parce que je pense pas qu'on soit des personnes, qu'on soit des personnes, je veux dire, parachutées par ici et qu'on soit une poignée de bons amis. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui partagent ce point de vue-là. Et encore une fois, j'en veux pas du tout aux personnes qui se vaccinent. Mon père est diabétique, il s'est vacciné, je lui volerai jamais dans les plumes. Je trouve que c'est un choix qui regarde chacun. On a toute notre propre situation, notre âge, nos antécédents, notre poids de corps, etc. Et je pense qu'en fonction de ça,
Après, tu disais, on est beaucoup dans ce cas-là, mais tu vois, dans les manifestations, il n'y avait que 20 000 personnes
dans
toute la France.
Chiffres,
hein.
La magie des chiffres, moi, quand j'entends 19 000, alors qu'à Chambéry, qui est une petite ville de Gaulois,
il y avait
déjà 2 000 personnes, je me dis que la calculette est encore en panne.
Tu crois qu'en fait, il y avait peut-être plus de monde. C'est difficile de savoir. Bah, c'est toujours la bataille des chiffres entre les chiffres officiels
et puis, je me dis aussi que cette manifestation a été organisée un peu sur le pouce. Tout de suite derrière l'annonce et que ça a été fait un peu rapidement et ça m'étonnerait pas que le mouvement grandisse même s'il ne deviendra jamais aussi grand que celui des Gilets jaunes.
Il y en a samedi, hein, je sais pas si tu comptes y aller mais
Je sais pas, pourquoi pas, je me ferme pas du tout cette possibilité là, moi qui manifeste jamais.
Peut-être que là, ça va. Tu vois, t'as annulé ta lune de miel, tu peux aller jusqu'à manifester. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu débattre avec nous au 32-16. Faites comme Cédric, venez nous raconter l'organisation de vos vacances et l'impact du pacte sanitaire sur votre vie. On est avec Franck Delvaux. Bonjour, président de l'UMI Île-de-France. Les chiffres sur le tourisme en Île-de-France sont mauvais. Le terme est même peut-être un petit peu faible. Franck Delvaux, la saison va être très compliquée. La Tour Eiffel rouvre ce matin, le pass sanitaire. Est-ce que c'est le coup de grâce ?
Oui, c'est un peu le coup de grâce. La saison, on a perdu l'année dernière 33 millions de touristes par rapport à 2019 à Paris-Île-de-France. Je pense qu'on va perdre cette année environ de 28-30 millions de touristes. On voit bien aujourd'hui, quand on circule dans Paris en ce moment, c'est facile de circuler.
Ah ça, c'est vrai qu'il n'y a personne. Mais on est tranquille, voilà. On est assez tranquille.
Voilà. Il y a toujours un point positif dans tout. Voilà, on circule bien aujourd'hui dans Paris, mais plus sérieusement, on voit bien que les touristes sont pas là. Et puis chaque pays dit à sa population restez chez vous, surtout pas aller à l'étranger. On le fait en France, et donc les autres pays le font également. Donc on n'a pas de touristes effectivement.
Donc pas d'Américains, un petit peu d'Américains, j'entendais ce matin.
Un petit peu d'Américains. C'est une population qui vient. Par contre, les Chinois qui sont très présents. Ne sont pas là, hein. Ça représente quand même entre les Chinois, les Japonais et les Américains, c'est 25% ce qu'on appelle les touristes long courrier, car on n'a pas de clients long courrier aujourd'hui. Quelques Américains, heureusement quand même, qui viennent, qui veulent voir l'art de vivre à la française, Paris, mais un peu d'Européens, mais pas nombreux. Donc c'est le bon moment pour venir visiter Paris.
Je lisais ce matin dans le Figaro que vous disiez attendre la Coupe du Monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques en 2024 pour que ça redémarre, ce qui fait un peu long. Bon, alors, c'est pas la Tour Eiffel qui va déposer le bilan, mais est-ce que du côté des hôteliers, des restaurateurs, là, ça commence sérieusement à se faire sentir ?
Ben, si vous voulez, la reprise était là, c'est bien redémarré. Ce pass sanitaire, c'est vraiment le coup de massue pour notre profession. À la fois parce qu'on nous demande de devoir contrôler pour nos salariés et puis parce que toute une partie, j'entendais le monsieur juste avant qui disait moi j'irai plus au restaurant. Allez, donc il y a un certain nombre de gens.
Il annule sa lune de miel, lui, carrément.
Et en plus, il annule la lune de miel. Parfois, il a dit qu'il n'allait plus au restaurant. Donc, je lui passe un message. Il peut y aller. Tout se passe bien dans les restaurants. Et par contre, oui, d'un autre côté, on est optimiste parce qu'il y a quand même ces événements qui vont arriver à Paris, la Coupe du Monde de rugby et surtout les JO en 2024. Alors, effectivement, il faut tenir jusque-là et il faudra que l'État soit au rendez-vous.
Là, vous dites, venez visiter, venez dans les parcs d'attractions. À Disney, les jauges sont à 40%. Vous pouvez aller au Louvre, voir la Joconde. Vous êtes quasiment tout seul. C'est le moment.
C'est le moment. Les hôtels sont ouverts. Les bars, les cafés sont ouverts. Ça circule bien. C'est vraiment le moment de venir visiter Paris. On sait qu'il y aura beaucoup de monde sur nos côtes et en montagne cet été. Où là, les réservations, il n'y a plus moyen de trouver une chambre d'hôtel ou une location. Donc à Paris, il y a tout ce qu'il faut. Puis Paris, c'est une très belle ville, donc c'est plus sympa de visiter Paris quand il n'y a pas grand monde.
Merci beaucoup Franck Delvaux d'avoir été avec nous, président de l'UMI Île-de-France. On va continuer ensemble à discuter du pass sanitaire. Qui contrôle ? Est-ce que les restaurateurs vont se transformer en policiers ? Est-ce que vous-même, vous allez faire la police dans les hôtels, dans les parcs d'attractions ? Est-ce que vous allez demander le pass sanitaire à votre voisin ? Est-ce que tout le monde va devenir un officier de police ? C'est notre question. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
Midi 14h. Neumann Le Chiffre.
Neumann Le Chiffre, le retour, toujours sans Laurent et sans Emmanuel, mais moi je suis toujours là et on va réécouter le meilleur de l'émission dans un instant. On parlera trottinette et intempéries, des sujets hautement d'actualité alors que les villes se transforment en jungle et que les inondations font rage en Allemagne. Mais avant, retour sur le pass sanitaire. Qui va vérifier le précieux sésame qui va vous être demandé partout, du restaurant au train en passant par le cinéma et la Tour Eiffel? Le pass sanitaire, c'est à partir du 21 juillet. Et le 21 juillet, c'est dans 5 jours, c'est mercredi. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, était ce matin sur RMC. Il invite à manifester ce week-end contre le pass sanitaire.
Je me retrouve au restaurant hier et la cuisinière m'a dit bon, moi je fais ça pour être cuisinière, je fais pas ça pour être policière. Je vais devoir demander le téléphone portable, les papiers d'identité à l'entrée du restaurant. C'est-à-dire que tout le monde devient flic de tout le monde. Est-ce que c'est dans ça qu'on a envie de vivre ? Je crois pas. Moi, j'invite aux manifestations. Pour ceux qui le souhaitent, le pouvoir, quand il a le pouvoir, il tend à en abuser. Là, il en abuse. Il abuse de cette monarchie absolue, de cette hyper-concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme. Eh bien, il doit trouver une limite. Et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous.
Tout le monde va être le flic de tout le monde, selon François Ruffin. Et les flics, eux, n'ont pas du tout envie de faire la police du pass sanitaire. Écoutez, Stanislas Godon, délégué du syndicat Alliance Police Nationale, il était hier avec nous. Pour lui, le pass sanitaire, c'est une usine à gaz impossible à mettre en place.
Lorsqu'on a appris que d'abord on allait contrôler les personnes, on allait frapper à leur porte pour vérifier qu'ils sont bien en isolement, alors qu'ils vont avoir pour certains des autorisations de sortie entre 10h et midi, très clairement ça c'est pas le rôle de la police. Je pense que l'assurance maladie, elle peut contrôler comme elle le fait d'ailleurs de manière quotidienne et mensuelle pour contrôler en fait tout simplement les arrêts maladie. Alors je sais pas si vous vous rendez compte un peu de la situation, on est en train de créer une usine à gaz et sans se donner les moyens, et en plus en donnant un très mauvais rôle aux policiers. Comment, encore une fois, les policiers vont aller contrôler si, effectivement, le chef d'établissement a mis en place des contrôles et si il n'a pas laissé passer quelqu'un? Ça veut dire qu'il va falloir, en plus, qu'on contrôle à l'intérieur des établissements les personnes pour vérifier qu'ils ne sont pas, notamment, détenteurs d'un test positif Covid. Enfin, vous voyez un peu le signe à gaz qu'on est en train de créer. Et surtout, encore une fois, j'insiste là-dessus, de redonner le mauvais rôle où les policiers vont contrôler, finalement, encore les chefs d'établissement qui ont déjà quand même fait pour la plupart et en grande majorité de gros efforts d'investissement pour être dans les clous au niveau des règles sanitaires.
Situation kafkaïenne et compliquée autour du pass sanitaire. On vous attend au 32-16. Est-ce que les restaurateurs doivent se transformer en policiers? On est avec Yann Lal qui nous appelle depuis Lyon. Bonjour Yann Lal.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de l'association Les Bouchons Lyonnais et le Poêlon d'Or. Est-ce que vous apprêtez-vous à vous transformer en policier?
Ah non, pas du tout. Moi, je suis restaurateur. Je suis là pour donner du plaisir aux gens qui viennent se restaurer dans mon établissement, pas pour les contrôler. Sinon, comme vous dites, j'aurais fait gendarme ou policier. Donc, ce n'est pas du tout mon rôle. Même si j'incite effectivement les Français et les Françaises à se faire vacciner pour essayer d'endiguer cette pandémie qui nous pourrit la vie, je dirais, depuis plus d'un an. Mais de là à nous aller contrôler les gens, c'est un autre travail et c'est pas du tout le nôtre.
Donc, si c'est impossible à mettre en place, ça veut dire que mercredi, vous n'allez pas vous mettre à l'entrée des établissements et demander les papiers?
Bah déjà, c'est pas notre rôle, et puis ça se fait pas. Et puis quand vous allez au restaurant, c'est pour passer un bon moment. Si déjà les gens, à peine ils ont passé le seuil de votre porte, vous êtes en train de les agresser, à leur demander de vous présenter leur téléphone avec leur passe sanitaire comme s'ils montaient dans un avion.
Oui, c'est un autre délire. Voilà,
vous sera le plaisir, ça vous concerne aussi bien vous en tant que citoyen que moi, et je me mets à la place des clients. Maintenant, c'est vrai que nous, on incite les gens pour nous, ce qu'on veut surtout, comme le disait le gouvernement il y a pas longtemps, c'est le quoi qu'il en coûte. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est pas refermer. Nous, ce qui est le plus important, c'est qu'on referme pas nos établissements et qu'une fois de plus, on stigmatise et ni la culture et ni le tourisme. Maintenant, à chaque fois, c'est les responsabilités, elles reposent sur nos épaules.
Pas refermer, mais avoir des clients. Est-ce que vous avez l'impression que certains vont du coup faire autre chose, quoi, préférer rester chez eux?
Bah, de toute façon, s'ils sont pas vaccinés et si effectivement ils ont pas de test PCR, parce que c'est pas spécialement agréable d'aller s'enfoncer un coton-tige dans le nez tous les deux jours pour aller au restaurant. Effectivement, si ils se sentent en irrégularité par rapport à la réglementation qui sera demandée, ils viendront pas. Ça, c'est évident. Mais bon, vous savez, nous, ça fait plus d'un an qu'on avait des couleuvres. Alors une de plus ou une de moins. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, hein.
Vous entendez Stanislas Godon du syndicat de police dire « mais nous non plus, on ne se voit pas aller sur les terrasses des restaurants, faire des vérifications de passe et aller embêter des restaurateurs qui ont déjà pas mal souffert ».
Bah, de toute façon, je les comprends. Puis eux, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, hein. Il y a déjà pas mal de problèmes d'insécurité. Il y a déjà pas mal de problèmes à gérer dans notre pays avant d'aller embêter les clients qui sont dans un restaurant à savoir s'ils ont un pass sanitaire ou pas. Je crois que la police est déjà bien occupée avec tous les problèmes qu'on rencontre actuellement dans notre société. Donc c'est clair que je les comprends eux aussi. Donc en fait, quelque part, les gouvernants ont pris une décision sans consulter ni les personnes concernées, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, et ni les restaurateurs. Nous, vous savez, ça nous est tombé un peu dessus, comme à chaque fois depuis le début de ce confinement, avec l'annonce du président de la République qui demandait à ce que les gens soient en contrôle d'accessibilité dans les lieux clos comme nos établissements, à partir du 1er août. Sachant que si quelqu'un n'a pas commencé sa vaccination, c'est impossible d'être en règle pour le 1er août. Déjà, nous, à titre personnel, le vrai problème, c'est déjà nos employés. Ouais. Il faut que l'ensemble de nos salariés soient vaccinés. Nous, on avait la chance, on l'avait anticipé, hein, parce qu'on, comme on a un métier, on est en contact avec les gens pour notre sécurité et celle de nos clients. On avait mis en place la vaccination pour l'ensemble de nos salariés. Donc nous, c'est vrai qu'à titre personnel, on avait réussi à mettre ça en place. Et vous voyez, les dernières,
donc vous pouvez
les dernières
travailler injections sans de problème.
Mes salariés, voilà, bah, les dernières injections de mes salariés se font cette semaine. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore 10 jours. Donc on sera vraiment limite. à partir de la première semaine du mois d'août, l'ensemble de nos salariés sera vacciné et sera protégé, entre guillemets. Mais pour les clients, voilà, c'est presque mission impossible. C'est presque quelque part un empêchement d'accessibilité aux gens déguisé. Alors, on ne peut pas leur dire qu'ils ne peuvent pas y aller, mais on va dire, voilà, si au premier
mois. Vous avez l'impression que c'est parce qu'on considère que c'est trop dangereux, donc on préfère qu'ils n'y aillent pas?
Bah, c'est un peu ça, mais plus après, vous savez, nous, on a un peu l'habitude maintenant, on est échaudés, hein. On a été, je dirais, stigmatisés depuis le début de cette pandémie. On peut aller s'entasser dans les centres commerciaux et dans les grandes surfaces, mais par contre, on ne peut pas aller au restaurant. Alors que quelque part, nous, on a déjà mis en place des distanciations sociales, les gens ne sont pas les uns avec les autres. Enfin, on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui des extensions de terrasses qui nous permettent de faire manger les gens en extérieur. On n'a plus des services avec des salles bondées et des gens les uns à côté des autres.
Yann, j'entends ce que vous dites, mais je voudrais que vous discutiez avec Mehdi qui nous appelait au 3216 depuis Trappes. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Mehdi, toi tu es commercial et quand tu entends les restaurateurs dire le pass sanitaire c'est trop compliqué, ça t'énerve?
Ouais, ça m'agace un petit peu parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu contradictoire le discours actuel avec le discours lorsqu'ils étaient fermés en fait. C'est quand ils étaient fermés, quand on les entendait, limite qu'ils étaient prêts à tout accepter, ce qu'ils disaient, on veut absolument travailler. Et là, voilà, par exemple, moi, je regarde au Japon, en Asie, le pass sanitaire dans les restaurants, ça se passe super bien, en fait. Il n'y a pas toute cette rébellion, ces trucs, c'est trop compliqué. J'ai l'impression qu'en France, dès qu'on veut mettre un peu de technologie en place, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça, on est tout le temps un peu réfractaire et tout. Et voilà, donc je comprends pas trop, en fait. Et puis, voilà. Et ce qu'il y a, c'est que si on remet encore en place un couvre-feu, pas forcément, les restaurateurs, ils vont encore trinquer, et puis moi, ça m'embête, parce qu'ils méritent pas ça, mais dans un sens, je pense que les efforts doivent être faits des deux côtés, et en fait, ce que je trouve, c'est avant même que le dispositif soit mis en place, on est réfractaire, on se dit, ouais, mais non, ça marchera pas. On veut même penser encore si le dispositif avait été mis en place, et au bout d'une semaine, on dit, ouais, c'est trop compliqué. Là, je comprends, mais là, ça n'a pas commencé.
On n'a pas essayé. Yann Lal. Attends, Mehdi, Yann, juste peut-être répondez sur ce point-là.
Pour répondre à Mehdi, nous, on a déjà une expérience. Je tiens quand même à rappeler à Mehdi que quand on a déconfiné la première fois, moi j'ai les dates en tête, hein, parce qu'on les a tous vécues, le 2 juin. Pour rappel, le 2 juin, il était imposé d'avoir un masque pour rentrer dans un restaurant, alors qu'on n'avait pas encore imposé les ports du masque en ville, à l'extérieur et autres. Et rien que ça, déjà, ça a été très très compliqué à faire comprendre aux gens. Et il y a eu souvent de très vifs débats et les gens étaient très réfractaires. Nous, le problème, c'est pas d'aller contrôler les gens. C'est qu'un, c'est pas notre rôle et qu'il y a plus une opposition vis-à-vis du client que de nous. Nous, si on nous met en place des technologies, comme dit Mehdi, ouais, avec des appareils, parce que quand vous allez à l'aéroport...
C'est le rapport au client, c'est le client lui-même qui n'est pas content, en fait.
Mais voilà, il faut quand même rappeler à Mehdi que quand on a déconfiné, le seul endroit où on a mis le protocole le plus strict à la réouverture et à la fin du premier confinement qui avait été drastique, c'est au restaurateur qu'on l'a mis en place. Le port du masque obligatoire, c'était pour avoir accès à nos établissements. Et les gens n'avaient pas de port de masque obligatoire pour se balader en ville. Ça a été mis qu'un mois après. Donc c'est toujours pareil. On nous impose des choses. Et nous, en fait, c'est plus le rapport avec le client. Donc que Mehdi se pose la question à lui en tant que citoyen par rapport à la demande qui va lui être faite quand il va vouloir aller dans un restaurant, plutôt que nous, restaurateurs. Nous, comme Mehdi, nous, on était prêts et on est prêts à tout accepter pour que nos établissements soient ouverts. Et maintenant, on n'est pas prêt non plus à accepter des choses qui sont en dehors de notre domaine de compétences.
Parce que Mehdi, tu vois, bon, peut-être que toi, tu accepteras sans problème, mais il va peut-être y avoir des conflits. Hein. On avait tout à l'heure un responsable du secteur du loisir qui nous disait, devant les parcs d'attractions, ça va être compliqué de dire aux familles, bah, vous avez fait 3 heures de route, bah, vous repartez dans l'autre sens.
Moi, je pense, après, en fait, c'est aussi la responsabilité de chacun. Par exemple, moi, j'ai mon propre exemple. Le 4 juillet, je suis allé faire ma deuxième dose.
Oui.
Sur la file première dose, c'était quasiment vide. J'ai parlé avec l'infirmière, elle m'a dit, depuis une quinzaine de jours, il n'y a personne.
Ah bah, c'est clair que les centres de vaccination, ces dernières semaines,
voilà,
étaient vides.
Et là, comme par hasard, Emmanuel Macron parle, et là, d'un coup, tout le monde veut se faire vacciner en même temps. Alors que pendant 3 semaines, les centres de vaccination, ils étaient quasiment vides.
C'était
encore
le but, Mehdi.
Personne anticipe. Oui, mon.
Ah, Yann, il a anticipé. Il nous disait à l'instant, Yann, ah, que vous aviez fait vacciner tous vos.
Je vais vous donner l'exemple. J'ai accompagné mon épouse parce que j'arrivais pas à avancer mon rendez-vous pour ma deuxième injection.
Ouais.
Donc je l'ai accompagné, elle a eu la chance de se faire vacciner pour pas faire de publicité au stade de Gerland à Lyon. Et quand j'y suis allé avec elle, ils m'ont demandé vous. Ben, je dis bah non, ben moi je voulais avancer mon rendez-vous, j'ai pas pu. Effectivement, comme dit Mehdi, il y avait peu de monde. Donc la dame m'a demandé de contrôler la première injection que j'avais eue. Il s'avérait que c'était Pfizer, donc c'était la même. Elle m'a dit bah si vous voulez, on peut vous faire la deuxième injection. Vous êtes dans les délais. Donc ça m'a avancé de 8 jours. Donc effectivement, il a raison. Mais ça, c'est le devoir de chaque citoyen. Nous, on est restaurateurs. Donc on n'est pas là aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais après, la menace servait à ça. La menace du pass sanitaire servait à justement à faire en sorte que toutes les doses qui attendaient avec personne trouvent un bras de Français.
Et nous, on l'a fait parce que pourquoi? Parce que nous, on a un métier où effectivement, on côtoie énormément de gens. On fait à peu près 120 personnes par jour. Donc on a, je dirais, un brassage de personnes. Et que pour notre sécurité, à nous,
en tant que professionnels et nos salariés, on a fait la démarche et la pédagogie pour que nos salariés soient vaccinés. Et ce qui a été fait,
et ça s'est bien passé.
Après, nous, on peut pas le faire. Oui, enfin, entre guillemets, oui. Après, c'est vrai que c'est difficile, et là, je me permets, en tant que citoyen, d'aller dire à des jeunes de 22 ans de se faire vacciner parce que eux, leur copain l'a eu ou leur copine l'a eu, et que, bon, à part avoir un bon rhume, ça leur a rien fait de plus, et d'aller s'injecter un produit sans trop savoir ce qu'il y a dedans et ce que ça risque de faire à long terme, ça les motive pas énormément. Il faut le dire aussi. Il y a un moment,
c'est pour ça qu'il faut les convaincre de l'intérêt collectif de le faire. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été avec nous.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci, restaurateur, vice-président de l'association des Bouchons Lyonnais et du Poêlon d'Or, Yann Lal, qui était avec nous il y a quelques instants. Un grand merci à Mehdi, qui était avec nous depuis le 32-16. On est avec Greg, qui nous appelle de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise. Bonjour, Greg.
Oui, bonjour.
Bonjour, toi, tu es policier, et ce pass sanitaire, ça te plaît pas du tout?
Non, ça me plaît pas du tout. Et puis, de toute façon, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que personne n'en parle pour l'instant, mais il y a un article de loi qui est prévu dans le Code de santé publique qui interdit justement toute personne de demander des informations concernant notre santé. Et c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Oui, mais tu as aussi des vaccins obligatoires que tu dois présenter quand tu vas à l'école, à la crèche.
Toi, en tant que policier, tu dois en avoir aussi. Au personnel médical. D'accord, mais toute personne ne faisant pas partie du corps médical,
bah à l'école, peut se voir tout le monde ton carnet de santé.
Oui, à l'école on le donne, on le, mais c'est pas obligatoire en fait.
Ah bah si tu montes pas le carnet de santé, tu vas pas à l'école. Si tu refusais de l'école et de la crèche.
Parce que jusqu'à présent, personne ne veut déposer plainte. Mais tout article qui est prévu par la loi, si vous demain quelqu'un vous demande votre état de santé, d'accord, qu'il insiste ou qu'il essaye de s'informer sur votre état de santé. Vous avez le droit de déposer plainte contre lui.
Ah bah ton assurance, quand elle t'assure pour un bien immobilier, elle te fait même parfois passer un bilan de santé. Donc, tu vois, on est loin de...
Oui, et pourtant, c'est prévu. Ah vous voyez, toutes les lois, en fait, qui sont prévues, mais qui ne sont pas appliquées...
Est-ce que toi, ça te dérange en tant qu'individu, le pass sanitaire, ou en tant que policier?
Eh bien, moi, les deux. Les puisque deux demain, en fait, on va être appelé... Vous voyez, bon, je bosse à Paris.
Oui.
Hein, à Paris, comme vous le savez... Il y a beaucoup d'hommes politiques, il y a beaucoup d'avocats qui sortent dans les restaurants. Demain, un avocat va sortir dans un restaurant, on va lui demander son pass sanitaire. Mmh. Il va nous appeler. On doit faire quoi? On interpelle l'avocat ou on interpelle le restaurateur? Puisque l'avocat va nous sortir un texte de loi du Code de santé publique qui interdit toute personne ne faisant pas partie du corps médical à lui demander son carnet de santé.
Donc pour toi, c'est que des conflits à venir?
C'est complètement aberrant, en fait. Puisque là, vous voyez, il y a une loi, justement, comme je vous dis, qui interdit toute personne à vous demander votre état de santé. C'est prévu. C'est puni. Donc demain, on fait quoi? Pour l'instant, là, il n'y a toujours pas de loi qui est passée, justement, pour le pass sanitaire. Demain, un restaurateur n'est pas policier. Hein, donc, que ce soit dans les restaurations, dans les parcs de loisirs ou autre, un agent de sécurité va vous demander vos papiers, c'est pareil. C'est interdit aussi.
Ah mais il y aura peut-être des conflits, effectivement, Greg, devant les restaurants, devant les centres de loisirs. On en parlait tout à l'heure, des conflits à venir avec les vérifications de passe sanitaire. Un grand merci, Greg, d'avoir été avec nous au 32-16. On va continuer à discuter ensemble. Dans un instant, vous allez écouter le meilleur de Neumann Le Chypre. On va parler ensemble des trottinettes et de la planète. Et puis tout à l'heure, à 13h, on parlera des enfants. Si vous prenez le train, comment les occuper? On a des trucs à vous donner et on attend aussi vos trucs à vous. Et puis, le sujet Covid, peut-être qu'il faut l'éviter en famille, ne pas en parler, c'est peut-être plus simple. À tout de suite sur RMC.
Midi 14h. Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, on est ensemble jusqu'à 14h. À 13h, on va parler famille et vacances, comment gérer des enfants pendant un trajet. Est-ce que ça peut être autre chose qu'un petit enfer? On vous attend au 32-16. Mais avant, on va revivre ensemble les meilleurs moments de Neumann Le Chypre. 2 millions de trottinettistes en France, selon le baromètre AXA Prévention, et des comportements parfois très dangereux. 59% des trottinettistes passent à vive allure à côté d'un piéton. En juin dernier, à Paris, plusieurs piétons ont subi des accidents graves, même mortels, ce qui nous a amené à nous poser la question avec Laurent Neumann et Maëlle Le Chypre. Les trottinettes et les vélos ont-ils tous les droits? Pour Maëlle Le Chypre, c'est oui et c'est scandaleux.
Mais c'est devenu la jungle, c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y avait encore que les voitures, les bus et tout le monde qui roulait à peu près sur les mêmes voies, Ça paraissait compliqué, mais au moins c'était clair. Il y avait une place pour les piétons, une place pour les véhicules. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les conducteurs de trottinettes, les conducteurs de vélos, ils utilisent tout alternativement, c'est-à-dire qu'ils prennent les trottoirs, ils prennent les pistes cyclables, ils prennent la route, les passages piétons, c'est n'importe quoi. Le piéton aujourd'hui est en danger à Paris à cause de ça. Et je finis par penser que la multiplication des voies dédiées est un enfer supplémentaire, parce que sur chaque voie dédiée, tout le monde pense qu'il a tous les droits et qu'il est dans son bon droit et qu'il fait n'importe quoi. Et quand vous êtes piéton, qu'il faut plus seulement traverser une rue, mais traverser une piste cyclable, une voie de bus, etc., ça devient l'enfer. Et la réalité, c'est que l'accidentologie, elle reflète ça. Si vous prenez le nombre d'accidents globalement, tous usagers confondus, il baisse. En 2020, il a baissé de 16%. Si vous prenez en revanche les accidents liés au vélo, plus 30%, aux trottinettes, on en est à plus 15, plus 20%. La tendance, elle est quand même incroyable. Alors, il y a peut-être moins de morts, mais le nombre de blessés au total et l'insécurité, même pour les enfants. Un enfant a un passage piéton, il y a une voiture, il n'y a pas de voiture, il regarde, c'est gros, ça fait... Les vélos, ils surgissent de n'importe où.
Laurent défend les vélos et les trottinettes.
D'abord, on peut dire que cette anarchie en ville n'a pas encore été réglée par les pouvoirs publics, et là, je suis obligé de te rejoindre. C'est vrai que les règles sont pas claires. Mais par contre, admets un truc tout bête qui relève du bon sens, admet qu'il y a autant d'irresponsables parmi les automobilistes, les cyclistes ou les conducteurs de trottinettes.
Non, c'est pas vrai. Simplement parce que le conducteur de voiture, il a un permis. Il a appris le code de la route, il connaît les règles. Après qu'il mais les autres même.
Allez,
pas.
Allez, laisse Laurent parler.
D'accord, et tu crois que c'est parce que t'as un permis, tout à coup tu deviens responsable? D'abord, il y a 700 000 automobilistes qui n'ont pas de permis, je te signale. Donc, ce que tu dis est faux. La vérité, c'est une question de comportement personnel. Et je te le dis, il y a autant d'irresponsables au volant d'une voiture qu'au guidon d'un scooter ou d'un vélo ou sur une trottinette. C'est comme ça. Et je vais même aller plus loin. Il y a même des piétons qui sont totalement irresponsables, qui traversent au vert avec le téléphone portable dans la main. Donc, c'est une question de comportement individuel. Deuxièmement, je suis allé regarder les statistiques. C'est vrai que les accidents à vélo augmentent. Mais pardon, les propriétaires de vélos, les cyclistes, sont bien plus souvent victimes d'accidents que auteurs d'accidents. C'est même dans une proportion totalement inversée. Il y a eu 184 cyclistes qui ont été tués en 2019. 184. Il y a combien d'accidents mortels causés par des cyclistes? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc ce débat-là, il est mauvais. Le vrai débat, tu l'as posé dans tout ce que tu as dit, c'est que les pouvoirs publics n'ont toujours pas compris le partage de la route en ville et ailleurs. D'ailleurs, j'ajoute que le plus grand nombre de morts à vélo, il n'est pas en ville. Il est en campagne, en l'occurrence. Et il est causé par qui? Par les voitures ou les motos. Et en ville, c'est pareil. J'ai regardé à Paris, puisque c'est à Paris que se sont déroulés les deux accidents dont tu parlais, Laure. Il y a eu 4 morts depuis le début de l'année. 2 causés par des poids lourds, 1 par une voiture, l'autre par un deux-roues motorisé, pas par des vélos. Voilà. Donc, dire que l'insécurité routière en ville, c'est la faute des vélos, c'est faux. Les vélos, ils participent parce qu'il y a des cyclistes irresponsables, mais dire c'est la jungle et c'est la faute des vélos, c'est juste un mensonge.
On est avec Karim, qui est artisan taxi à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est dans le Rhône. Bonjour Karim.
Bonjour Laure, bonjour Emmanuel et bonjour...
Salut Karim.
Toi, t'as du mal à cohabiter avec les trottinettes.
Alors Laurent, d'abord, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as des œillères comme les chevaux de course? Simplement une question.
Pourquoi?
C'est pas péjoratif. J'ai l'impression que tu regardes face à toi sans regarder sur les côtés. La réalité, elle est tout à fait différente. Moi, je suis 12 à 13 heures par jour sur la route et c'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je suis souvent d'accord avec toi sur d'autres sujets, mais là, je suis à 100% d'accord avec Emmanuel. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de civisme chez eux. Ils font comme ils veulent. Ils ne respectent rien. Il n'y a pas de fourrouge, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de sens, il n'y a rien du tout. C'est invivable.
Karim, que tu as commencé en disant que j'avais des œillères et que je ne regardais pas la réalité.
Ouais.
Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Avec moi que le comportement de ce cycliste est irresponsable, mais que tu dois croiser au volant de ton taxi des comportements irresponsables de la part de scooters, de motos, d'autres automobilistes, et même, pardon Karim, de certains piétons. Dis la vérité.
Alors,
vas-y Karim.
Défends.
défonce-le, vas-y.
Et où le gouvernement, il a juste raison, ils ont su éduquer les automobilistes et les motards.
Ouais, mais il y a un truc quand même que Laurent en tout cas oublie. C'est que Laurent, t'as l'air de considérer que de toute façon, les gens qui font des infractions, qui respectent pas les règles, quelles que soient les règles, c'est leur caractère, c'est leur nature, c'est leur tempérament, ils ne veulent pas respecter les règles. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. C'est qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations qu'ils ne maîtrisent absolument pas parce qu'ils sont dépassés par incompétence, parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ouais. Parce que les règles sont trop compliquées. Prends par exemple.
C'est marrant cette habitude que t'as de déresponsabiliser.
Mais je déresponsabilise.
Bah, si c'est jamais de leur faute.
Au contraire, moi je te dis, si on leur faisait passer un permis, s'ils étaient obligés de connaître les règles, là tu peux les responsabiliser et les mettre devant le fait accompli en disant attendez, les règles vous les connaissiez, vous avez un permis et donc si vous les avez transgressées, c'est que vous les avez transgressées délibérément.
Mais encore faut-il pouvoir leur mettre des amendes et faire respecter les règles.
Mais moi automobiliste, attends, il y a des fois il y a des boulevards dans Paris où un coup t'as la file des bus, la file des voitures. Un coup la file des bus elle part à droite, un coup elle revient au milieu, un coup tu sais plus.
Oui,
tu te retrouves. Non mais je te jure.
Je rappelle
fois...
qu'Emmanuel Le Chiffre fait ses courses en trottinette. Donc tu ah oui. sais de quoi tu
parles. Des fois
tu
t'es sur la file des bus, tu crois que t'es sur. Non c'est un. C'est
tu
un...
es perdu.
T'es perdu. Il y a pas que des gens qui.
Oui, tu souffres, pauvre petit chat. Et si Emmanuel Le Chiffre a peur des trottinettes électriques et des vélos, il y a un sujet qui lui fait pas peur, c'est le réchauffement climatique. Et pourtant, il y a peut-être de quoi. Au moins 90 personnes sont décédées en Allemagne et en Belgique après des intempéries entraînées des crues historiques. La vigilance orange est toujours active dans le nord-est de la France. La France qui a déjà connu cette année des épisodes climatiques violents, inondations, grêles, canicules. Alors, est-ce que vous avez peur du dérèglement climatique? C'était le débat qui nous avait animé le 25 juin dernier. Je vous propose de réécouter. Si Emmanuel Le Chiffre, lui, il n'était pas inquiet. Laurent Neumann, lui, il a peur.
Ah bah évidemment que c'est oui. Si tu raisonnes à 6 mois, non, j'ai pas peur. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu une tornade absolument terrible hier en République tchèque, c'est pas parce qu'il y a eu des grêlons qui ont été dévastateurs à tel endroit ou un épisode de canicule à venir que je suis inquiet. Je suis inquiet surtout pour les prochaines années. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le dérèglement climatique? C'est des épisodes de canicule, de la sécheresse, une tornade comme on a vu hier, des incendies, des inondations. Très bien, c'est localisé, on peut encore maîtriser. Mais dans les 10, 20, 30 prochaines années, ce que dit le GIEC, moi j'ai pas lu les 4000 pages, mais j'ai lu le résumé ou en tout cas ce qui en a fuité, ça fait froid dans le dos. On est au-delà du film d'horreur, je suis désolé. Je résume, pénurie d'eau, malnutrition, exode de millions de gens, extinction des espèces.
J'avais dit de pas le lire. Hein.
Destruction des habitats. Toi, tu as pris l'exemple de la calotte glaciaire, oui. Augmentation des eaux de 13 mètres. Mais est-ce que tu sais que cette augmentation de 13 mètres des eaux met en danger 13 des 20 plus grandes mégalopoles dans le monde?
Emmanuel, tu dis même pas peur.
Bah, moi, j'avoue que j'ai peut-être une confiance excessive, mais en tout cas solide dans... dans tout ce qui va nous permettre de lutter justement contre ce réchauffement climatique. Moi, je pense qu'en matière d'innovation et de recherche, de nouveaux produits, nouvelles techniques, ça va quand même très vite. Et ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et tout va plus vite que ce qu'on pense. Prenez la voiture électrique, par exemple. On nous disait les objectifs, c'est 2030. Or, aujourd'hui, on a quasiment atteint avec 10 ans d'avance les objectifs qu'on s'était fixés pour 2030. Les innovations, il y en a tout le temps, il y en a plein. Il y a des entreprises qui trouvent des trucs absolument incroyables. Allez, je vous en cite une comme ça au hasard. C'est une entreprise néo-zélandaise qui est en train de prendre le carbone dans l'atmosphère et de le transformer en carburant. Voilà, on est en train de découvrir des procédés pour nettoyer les mers qui vont et qui peuvent potentiellement avoir des résultats rapides. L'efficacité énergétique, elle augmente. Les entreprises, elles se transforment. Regardez les grandes entreprises comme Total, par exemple. Elle est en train d'opérer un virage absolument spectaculaire vers les énergies renouvelables. Et puis surtout, l'argent commence à couler à flot. C'est-à-dire qu'on dit, oui, capitalisme irresponsable, court-termiste, etc. Mais la réalité, c'est que comme l'intérêt maintenant de la finance, c'est d'aller vers le verdissement de l'économie mondiale, tout simplement parce que ça va rapporter de l'argent. C'est pas du bon sentiment, c'est pas de la morale. C'est juste que ça va rapporter. Et donc, vous avez des sommes considérables qui se déversent vers les projets verts. Donc moi, je pense qu'on va réagir et que finalement, on pourra sans doute éviter la catastrophe.
Marc Hayes avec nous. Bonjour, journaliste. Bonjour. Météo à BFM TV. On fait la liste de tous les événements. Est-ce qu'on les regarde avec notre loupe journalistique ou est-ce qu'ils sont vraiment plus nombreux ?
Ils sont plus violents en tout cas. C'est vrai que ces derniers jours là, on assiste à une multiplication des phénomènes. Tornade à l'est de Pontarlier dans le Doubs. Tornade le week-end dernier dans les environs de Saumur, en Indre-et-Loire, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, grêlons de 10 cm, des orages violents, des supercellules. On a une augmentation, une multiplication des vagues de chaleur depuis 1947. Et c'est vrai que pour les décennies à venir, on s'oriente vers des choses quand même assez incroyables. On s'aperçoit chaque année maintenant qu'on dépasse avec une facilité assez incroyable la barre des 40 degrés l'été, dans le sud, mais également dans le nord. En Ile-de-France, les trois dernières années, on a dépassé la barre des 40 degrés.
Lisa Marie, quelle est la première tendance ?
Vous êtes 60% à répondre oui, le dérèglement climatique, ça vous fait peur et le climat, ça vous tracasse. Fabien se demande même comment fait Emmanuel pour ne pas le voir. Et il te demande, Emmanuel, si tu portes des œillères pour ne pas voir que le dérèglement climatique, c'est une réalité.
Non, mais moi, attendez,
il n'est pas climatologique. Tu portes des œillères, je te confirme.
Non, mais les amis, il faut être très clair. Il n'y a évidemment aucun argument qui permet de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Bien évidemment qu'il y a un dérèglement climatique. La question, c'est pas de nier le dérèglement climatique. La question, c'est de dire que, un, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien outillé et on va découvrir, sous l'effet de la contrainte, tout un tas de solutions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui pour peut-être pas enrayer le dérèglement climatique, mais en tout cas, nous permettre de le supporter et de le
vivre. Tu te rassures avec la science.
Mieux que ce qu'on n'a jamais réussi.
Tu penses qu'il va y avoir un effet de magie à un moment donné, et tout à coup, on va créer deux, trois innovations de disruptives qui vont nous permettre de faire face au réchauffement climatique. Mais tu te mets le doigt dans les deux yeux.
Alors, c'est marrant, c'est-à-dire ces gens qui, enfin, dire, tu serais au 16e siècle, tu considérerais que la Terre est plate et tu dirais, oh, il y a un gars qui va nous démontrer un jour que la Terre est ronde, ben, il serait complètement dingue. Comment peux-tu considérer
qu'on est
dans un état totalement fini et achevé de la science? Mais, enfin, dire, c'est terrifiant.
Neumann Le Chiffre, dans un instant, ça continue. C'est les départs en vacances. On va parler des parents épuisés qui ont besoin de conseils, des discussions entre amis et en famille sur le Covid. Vous prenez le train, comment occuper vos enfants? On attend vos trucs au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chiffre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chiffre.
Bonjour à tous, c'est Laure Closier. On est ensemble jusqu'à 14h sur RMC. On va revivre ensemble les meilleurs moments de Neumann Le Chiffre, sans Neumann et sans Le Chiffre, puisqu'il n'y a que moi qui suis là aujourd'hui. Mais venez discuter avec moi. On va parler de famille, d'organisation. C'est le début des vacances. Certains sont peut-être déjà partis. Comment se passent les échanges avec votre famille, vos amis, vos voisins de plage, vos collègues de camping, à table, à l'apéro, en jouant aux cartes? Est-ce que vous évitez le sujet sanitaire? Est-ce que vous préférez ne pas mélanger à table les sceptiques sur les vaccins et les pro-passeports sanitaires? Je vous attends au 32-16. On va tenter de pacifier les relations avec une psychiatre et épidémiologiste. Ça sera dans un petit quart d'heure. Mais avant d'aller se la couler douce et de prendre l'apéro, encore faut-il prendre le départ sur les routes, dans les gares, dans les aéroports. Et quand on voyage avec des enfants, notamment petits, eh bien parfois ça tourne vite au cauchemar pour les parents, mais aussi pour les autres. Parfois dans les trains, c'est pas facile. On entend des célibataires qui soufflent. Je les entends d'ici. Dans un instant, on sera avec Shiva Shafi, qui est fondatrice de la start-up Parents Épuisés, qui a plein de trucs et astuces à nous donner. Mais avant, on va aller au 32-16.
RMC, Neumann Le Chiffre.
32-16. Et on est avec Steve, qui nous appelle depuis Salone, c'est en Gironde. Bonjour Steve.
Bonjour Laure.
Toi, tu as combien d'enfants,
Steve? Alors, moi j'en ai 3 et ma conjointe en a 3 aussi, donc on en a 6 au total.
Donc, vous prenez 2 voitures.
Donc, 2 voitures, parce qu'il y a 6 enfants et un gros chien, un boxeur.
Ouais, donc 2 voitures, un adulte par voiture, forcément, c'est qui mieux, conduit. Ouais. Et ça se passe comment?
Eh ben, ça se passe très très bien. Nous, il n'y a pas de négociation possible chez nous. Donc en fait, tout le monde suit les règles.
Alors attends, ils ont quel âge?
Donc on a 7 ans, on a 8 ans, on a 9 ans, on a 11 ans, on a 13 ans et 16 ans bientôt.
Donc t'as plus de bébé déjà?
Non, j'ai plus de bébé.
Donc t'es déjà vers des enfants qui comprennent quand tu leur dis quelque chose
pour la négociation. Ah oui, ils comprennent très bien. Oui.
Est-ce que depuis des années, vous jouez dans la voiture? C'est-à-dire vous dites, on compte les voitures rouges, on fait des devinettes
Alors oui, mais c'est pas forcément le truc du voyage. Mais disons qu'avant chaque voyage, ils préparent un petit sac avec de l'occupation, leurs propres jouets, la console. Mais c'est vraiment un minimum de chez minimum, parce que la console chez nous c'est pas trop ça. Même s'ils y ont droit, c'est pas le truc absolu. Donc des bouquins, des jouets, quelques gâteaux, une petite gourde, et tout le monde s'assoit et tout le monde se tait.
Chacun, tout le monde, on n'a pas de parler.
Si. Non.
T'as le droit de discuter quand même.
Non, c'est-à-dire tout le monde se tait, il y a pas de ralage, quoi. Tout le monde s'assoit,
il y a pas de bagarre.
Non, il y a pas de bagarre, il y a pas de bagarre.
Parce que ça, c'est l'horreur quand même en voiture. Quand à l'arrière, t'as des enfants qui se disputent ou qui se battent.
Bah, il peut pas y avoir de bagarre parce que les règles elles sont bien définies de base, et de base il y a pas de raison de se disputer parce qu'ils sont frères et sœurs. Donc c'est cohésion totale et ça roule comme ça, quoi.
Donc chez toi, ça se passe bien, nickel, sans problème. Mais tu prends pas le train, jamais.
Non, jamais prévu. Ouais. Non, on pourrait le prendre, ça changerait pas grand-chose.
Ouais, tu crois qu'il serait aussi sage?
Ah ouais, tout le monde suivrait, sans problème.
Bon,
ah
ouais. Chez toi, Steve, tout se passe très bien. Bon, je t'avoue que c'est pas le cas de chez tout le monde. Il y a quand même des voyages en voiture où tu arrives, tu es farci comme un chou-fleur quand même. On est avec Shiva Shafi. Bonjour, fondatrice de la start-up Parents épuisés. Parents épuisés, c'est le premier média décalé du parent qui a décidé de rire de sa condition. C'est ça qu'il faut faire, Shiva. Il faut rigoler de ses problèmes de parents.
Oui, absolument, pardon. Bonjour Laure. Bonjour. J'entendais ce témoignage et ça me fait vraiment très envie. Je pense qu'il faut qu'on ait une interview nous aussi, ce papa, parce que on ne doit pas avoir le mode d'emploi chez les parents épuisés, ça c'est sûr.
Parce que globalement, c'est dur, un voyage avec des enfants.
Ah, mais globalement, c'est dur, c'est une épreuve de nerfs qui est complètement dingue. Et évidemment, c'est encore plus difficile avec des petits qui comprennent moins bien, qui sont moins autonomes, etc. Mais ça continue à l'être quand ils grandissent, surtout quand il y en a beaucoup, surtout aussi sur des trajets longs. Et en plus, il y a aussi l'angoisse parentale du voyage, la peur d'oublier quelque chose, la fatigue, le besoin de faire des pauses, la peur de gêner... l'entourage, par exemple, dans le train. Donc, il y a tout un tas de choses que les enfants ressentent en plus.
Alors, vous avez lancé des kits de survie pour parents et pour parents épuisés. Il y a le kit Je m'ennuie, il y a le kit Grasse mat, en voyage, apéro. C'est quoi la clé? C'est de trouver sans arrêt des choses ludiques?
Exactement. En fait, l'idée, c'est de transformer des moments de stress, d'impatience et de moments hyper tendus entre les parents et les enfants, de les transformer en moments en occasion de partage et en moments de joie. Et du coup, d'aider un peu le parent qui souvent n'a plus d'inspi quand il est en plus fatigué et en vadrouille, avec ces petits jeux de cartes, donc de 54 cartes qui sont très faciles, il n'y a pas de règles compliquées, sont des petits gages, c'est nomade, c'est anti-écran aussi, donc c'est très déculpabilisant pour le parent qui essaie de lutter contre les écrans. Et en fait, les enfants s'ennuient très très vite, et du coup là, ils ont plein de petits gages qui peuvent dégainer à la suite. Le faire chacun leur tour, les parents peuvent le faire aussi, et c'est extrêmement ludique, et du coup tout le monde passe un bon moment, en tout cas au moins pour une bonne demi-heure, hein. Je garantis pas les 8 heures.
Ah, une bonne demi-heure, c'est déjà pas mal, ça permet un peu de se calmer, mais tout est bon, il faut quoi? On cite les légumes qu'on connaît, on compte les voitures, quand on a fini avec les cartes?
Alors, dans les cartes, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il y a des cartes de connaissances. Donc, par exemple, cite trois villes que tu connais. Il y a des choses d'imagination où il faut inventer une histoire avec les trois cartes. Des jeux d'observation aussi, où il faut trouver des plaques qui terminent par tel ou tel chiffre. Et une fois qu'on a terminé, il faut avoir évidemment plein d'autres idées. Nous, on a une solution qui marche pas mal avec les un petit peu plus grands. C'est la musique. En fait, c'est un moment où on peut écouter de la musique tous ensemble, où on est obligé d'être réunis. Et c'est vrai que les enfants ont leur petit monde à eux qu'on ne soupçonne pas toujours. Et c'est le moment, en fait, de leur dire « Très bien, maintenant, on va choisir chacun notre tour un morceau de musique. » Ça marche hyper bien, même chez des assez petits. Ils choisissent leur morceau et puis on tourne comme ça. Et on essaie d'être sans jugement. Par exemple, si un ado qui aime le reggaeton et qu'on n'aime pas, on va quand même écouter et trouver ça rigolo. Si un des parents, c'est vraiment un cliché, mais veut mettre un morceau de musique classique ou autre, les enfants vont être obligés d'écouter. Et en fait, tout le monde joue le jeu, et ça, c'est des moments qui peuvent durer longtemps et qui sont hyper sympas.
C'est vrai que la musique, ça marche très très bien en voiture. Il y a le problème du train et de l'avion et du regard des autres. Moi, je me souviens avoir pris un billet en première classe avec un bébé pour avoir un tout petit peu de place et avoir des voisins qui, rien qu'en me voyant arriver, pouffaient d'avance de désespoir.
Oui, c'est clair que les gens oublient en plus, même quand ils ont eu des enfants eux-mêmes, ils oublient cette période-là. et ils sont parfois très très durs. Donc là, le tout, c'est d'avoir un sac avec énormément de choses différentes à dégainer. Et puis évidemment, le Graal, c'est quand on arrive à les faire dormir, mais c'est pas toujours évident. Mais encore une fois, la musique peut aider, pas sur un bébé, mais sur des petits qui peuvent déjà commencer à écouter. On peut leur faire écouter de la musique, ils vont être sages à ce moment-là. Après, on va pas se mentir, il y a quand même aussi les écrans qui aident bien pendant les voyages en train. C'est hyper magique en fait. Hein. Donc, on n'est pas obligé de les laisser jouer à la console. Hein. On peut très bien leur montrer un film, un dessin animé, et se dire que c'est le moment où il y a un peu de lâcher prise là-dessus parce qu'il y a tellement de contraintes par ailleurs. Et du coup, il y a une espèce de deal comme ça qui marche très très bien. Il faut pas être anti-écran tout le temps en fait. Hein.
Puis ça peut être le Graal pour la fin du voyage. Ben oui, si t'es sage.
Exactement. Exactement, si les enfants se tiennent bien, ils ont droit à un film à la fin. Et voilà, et avant, il faut sortir tous les jeux qu'on peut avoir. Donc ça peut être des jeux de cartes, mais c'est vrai que ça peut faire du bruit, les jeux de cartes, hein, pour le coup, en train. La lecture en train, c'est aussi quelque chose qui marche. Alors c'est pareil, hein, ça va pas marcher les 8 heures, mais le tout, c'est vraiment d'avoir suffisamment de choses à dégainer. Et en effet, c'est très bien, j'entendais ce papa dire que les enfants préparaient eux-mêmes un sac. C'est bien qu'ils choisissent eux-mêmes, en fait, les jouets.
Ah, c'est ce que faisait Steve. Chacun prévoit pour voilà, son voyage ce qu'il a envie
exactement
de faire.
Et le parent prévoit ensuite en backup, une fois qu'il s'est ennuyé, enfin qu'il a déjà tout utilisé de ses objets à lui, le parent peut dégainer ce qu'il a prévu lui. Donc si c'est des jeux de société, si c'est des livres, etc. Et normalement, ça fonctionne assez longtemps.
Et Steve, qui est toujours avec nous, qui est notre père parfait, qui va donc être interviewé par toute la France pour savoir comment il fait. Steve, t'es pas face au « je m'ennuie » terrifiant quand même, au bout d'un moment, je m'ennuie.
Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le faire le tour du sac. Et après, tout ce qui est musique, tout ce qui est jeu, qu'est-ce qu'il y a dans ma valise, ou des jeux de mémoire, ou des choses comme ça marche très très bien. Et c'est vraiment ouais, ça, c'est la clé, c'est d'alterner en fait. Et surtout de faire en sorte qu'on est tous ensemble dans la même galère, c'est-à-dire que papa, ça amuse pas non plus de conduire autant que les enfants, ça les amuse pas de rester assis 5 heures d'affilée sur leur siège, quoi.
Ouais. Et Shiva, le problème quand même à gérer, c'est parfois la colère. Bon, alors Steve, ses enfants sont un peu plus grands, donc ils font pas de colère, mais c'est le problème de l'enfant de 15 mois.
Ah non, mais jamais fait de colère.
Ah non, mais Steve, non, mais ah non, j'y crois pas deux secondes.
Ah non, c'est pas possible. Une colère, c'est pas possible.
Steve, tu n'as jamais. Attends, tu as combien d'enfants? T'as dit 3. Toi, à ta compagne, tu as jamais été face à une colère?
Non, c'est pas possible.
Moi, je te
si c'est bien expliqué avant, si tout est anticipé, s'il y a aucune raison de faire une colère. S'il y a une colère, c'est qu'il y a une frustration. Donc s'il y a une frustration, c'est qu'on a mal expliqué avant.
Shiva, c'est moi j'entends, hein, je suis d'accord, moi je suis partisan de parler énormément avec les enfants, mais parfois je suis confrontée à des problèmes que je ne peux pas gérer.
Alors moi je pense que des colères, il y en a forcément parce qu'il y a forcément des frustrations. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il faut toujours creuser pour comprendre ce qu'il y a derrière la colère. Mais moi, ce que je pense, c'est que pour gérer ce genre de situation, il faut faire un maximum de pauses. Donc, si c'est en voiture, on fait des pauses en voiture. Si c'est en train, on fait un petit tour de wagon. Mais il faut un peu changer de paysage, il faut casser le rythme et avoir des moments où on peut un peu s'isoler. Donc, en train, on se met dans les compartiments là du milieu ou dans le wagon-bar ou autre, et on essaye de discuter. Ça, c'est si on peut, hein, si on est plusieurs parents, si on est des deux parents, par exemple, avec tous les enfants, on peut le faire. Si on est tout seul, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend de l'âge des enfants. Mais en tout cas, il faut provoquer des moments où on peut séparer un petit peu les enfants.
Bon, Steve, il est absolument parfait. On est avec Amandine qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Salut Amandine, toi tu es conseillère en séjour tourisme. Tu as des enfants de quel âge?
Alors j'ai un enfant d'un an et demi. Ouais. Par contre, du coup, c'est pas trop avec lui qu'on joue, le pauvre, il est encore trop petit.
Ouais.
Mais en fait, mon mari et moi, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a un jeu complètement stupide qui nous amuse beaucoup.
Ouais.
Et on a perverti pas mal de nos amis et des enfants qu'on a pris en voiture avec nous. C'est le jeu Twingo. Donc on se récompense d'une pince à chaque fois qu'on voit une Twingo sur la route.
Attends, tu pinces la personne qui est à côté de toi à chaque fois que tu vois une Twingo, c'est ça?
C'est ça, mais seulement les Twingo phase 1. Et on a pimenté le jeu. Mais quand je le dis, c'est complètement stupide, mais ça nous fait bien rire.
Mais c'est drôle, ouais.
Parce qu'en définitive, il faut aller le plus vite possible. Si on voit une Twingo avant l'autre, mais que l'autre commence à nous annoncer, parce qu'il faut annoncer quand on va faire Twingo, forcément.
Attends, t'annonces et une fois que tu la vois, tu pinces.
C'est ça, on est dans la circulation, on est en voiture. Si on voit la Twingo, il faut dire Twingo épincée aussitôt. Et si la personne n'est pas assez rapide pour faire sa pince, eh ben on a la possibilité, pour éviter de se faire pincer, de dire contre Twingo. Et en fonction du nombre de Twingo ou de la couleur de la Twingo, eh bien c'est un combo. C'est-à-dire que si c'est une Twingo verte, c'est 10 pinces.
Ah ouais, mais c'est génial, Amandine. Bon, alors, il faut, le problème, c'est qu'il faut quand même jouer avec des enfants qui peuvent identifier une Twingo. Donc, c'est vrai que la 15 mois, ton fils, c'est pas possible. Phase 1. Non, mais je suis d'accord, mais c'est très précis. Donc, c'est la framboise, la bleue, la jaune, là, c'est les toutes premières Twingo.
Ouais, c'est ça. Et puis, elles sont fun, on en voit de partout. Il y a des quartiers, nous, on s'amuse à passer extrêmement.
Il y a des quartiers à Twingo.
Il y a des quartiers à Twingo, tout à fait. Il y a des quartiers où on sait qu'on va trouver de la Twingo et on passe exprès des détours pour finir les points.
Ah oui. Ah mais ça marche. Et Shiva, ça, typiquement le jeu d'Amandine, bon, Twingo ou autre chose, il faut jouer quoi.
Mais c'est génial et c'est exactement l'idée du kit de survie. C'est des petits jeux comme ça qui ne sont pas du tout stupides en fait. Ils sont des jeux d'observation et de concentration et qui font que en fait on gamifie. Un moment qui n'est pas censé être un moment de jeu devient un moment de jeu à plusieurs. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire.
Voilà, jouer en permanence. C'est ça qui fait passer le temps pendant les transports avec les enfants et même entre adultes, puisque Amandine, elle joue à Twingo avec tout le monde. Merci beaucoup, Amandine, d'être venue nous raconter ce jeu pour pimenter nos trajets. Ça marche évidemment pas si vous prenez le train, mais il faut trouver autre chose. Un grand merci à Shiva Shafi d'avoir été avec nous, fondatrice de la start-up Parents Épuisés. Allez voir sur son site Parents Épuisés. Il y a plein d'idées pour les parents qui sont épuisé comme son nom l'indique. Dans un instant, on va parler des conversations en famille. Est-ce qu'il faut éviter totalement de parler du Covid? On vous attend au 32-16. Si vous avez un oncle qui ne veut pas se faire vacciner et une tante qui est pro-passe sanitaire, comment ça va se passer autour de l'apéro? On vous attend. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre. RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h sans Neumann Le Chypre et sans Laurent Neumann. Mais moi, je suis là pour discuter ensemble. On va revivre les meilleurs moments de l'émission dans un instant, notamment autour d'Amazon. Vous le savez, Amazon, grand sujet de débat et de discussion entre Emmanuel et Laurent. Mais avant, on va reparler du Covid. Le Covid qui s'est invité partout dans nos vies, dans notre organisation, nos choix personnels, nos discussions avec nos proches. C'est le début des vacances. Certains sont peut-être déjà partis. Comment ça se passe avec votre famille, vos amis, vos voisins de plage, vos collègues de camping, à table, à l'apéro, en jouant aux cartes? Est-ce que vous évitez ce sujet sanitaire? Est-ce que vous préférez ne pas mélanger les sceptiques et les pro-passeports sanitaires? On va tenter de pacifier les relations avec une psychiatre épidémiologiste qui va être avec nous dans un instant. On vous attend au 32-16 avec vos problématiques personnelles et on va aller justement voir Dylan.
RMC, Neumann Le Chypre.
32-16. On est avec Dylan qui nous appelle de Fleury-les-Aubrais, c'est dans le Loiret. Bonjour Dylan.
Bonjour Laure, bonjour à tous.
Toi, tu es chauffeur routier, Dylan. Ta sœur n'est pas vaccinée et tu préfères ne pas la voir.
Ouais, tout à fait. En plus, je suis asthmatique.
Ouais.
Et toute ma famille l'a fait, sauf elle. Et elle refuse catégoriquement. Hein. Pourtant, elle travaille en maison de retraite.
Ouais.
Tout comme ma mère. Et voilà, moi, j'ai préféré. Plutôt que de la voir et de s'engueuler quoi directement hein, parce qu'on a un caractère très fort elle et moi, j'ai dit directement tant que tu le feras pas je préfère pas te voir et voilà, c'est
la
c'est
conversation est pas possible, c'est-à-dire que vous arrivez plus à vous parler.
Non, on arrive à parler, mais il va y avoir une petite étincelle et ça va partir, ça part tout de suite, quoi, en fait. C'est ça le problème que j'ai avec ma sœur depuis ce temps, mais donc voilà. Mais, ouais, il y a pas de sujet à discuter dessus, quoi.
Dylan, on est avec Vivienne Coves Masfetti. Pardon. Bonjour Vivienne. Merci d'être avec nous, psychiatre et épidémiologiste. Vivienne, vous entendez Dylan nous parler de la situation avec sa sœur. Il préfère carrément ne plus se voir pour éviter le conflit. Est-ce qu'il faut toujours fuir les conflits ou parfois il faut rentrer frontalement dedans?
Moi, je pense que Dylan, il est plein de bon sens. Je pense que là, on est sur des sujets qui sont très profonds. C'est possible, il vient de dire qu'avec sa sœur, c'est peut-être pas le premier conflit. Je pense que si sa sœur, il est asthmatique, si sa sœur était empathique, je pense qu'elle se précipiterait au contraire pour se faire vacciner. Donc je pense qu'ils sont déjà dans des rapports peut-être un peu tendus et il a raison. Il a raison. C'est pas la peine de se disputer. D'autant plus qu'il a pas dit qu'il la verrait plus jamais de sa vie. Mmh. Il fait pas une situation dramatique. Puis si j'ai bien compris, si elle travaille dans une maison de retraite, là, ça va devenir très compliqué.
Mais Viviane, est-ce que ça veut dire que le Covid, c'est un peu la goutte d'eau qui va mettre sur toutes les relations familiales, peut-être parfois déjà un peu compliquées, une petite couche supplémentaire?
Ben, je dirais que le Covid, il fait qu'amplifier. C'est-à-dire, c'est pas le Covid qui crée le problème. Il y a plein de familles où les gens sont pas tout à fait d'accord, mais ils arrivent à trouver des compromis. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il y a une grosse différence entre avoir peur d'être atteint et entre discuter de la vaccination. Il y a eu quand même tout un moment où les gens, simplement, ils avaient peur. Et je pense que Dylan, malheureusement, il est dans cette situation. Si sa sœur travaille avec le public, elle peut l'attraper, elle peut lui passer. C'est une réalité.
Mais ça crée des nouvelles scissions, cette crise sanitaire, des nouveaux conflits qu'on n'avait pas vu venir, des choix personnels qui s'imposent à des familles. C'est compliqué, quoi.
Moi, je pense personnellement que le Covid ne crée pas. Je pense que le Covid met en lumière. Je pense que, en théorie, si on a une certaine harmonie dans une famille, les gens, je ne veux pas dire qu'ils pensent tous pareil, bien entendu que non. Mais je pense sur des choses vraiment importantes comme la mise en danger de la santé d'autrui. C'est quand même, a priori, les familles sont quand même assez solidaires là-dessus. Si elles ne le sont pas, j'ai du mal à penser que le Covid crée ça. Cette attitude, elle devait quand même préexister.
En fait, vous pouvez très bien avoir votre sœur qui est infirmière ou travaille dans un EHPAD depuis toujours, et comme la question ne s'est jamais posée, vous vous apercevez là qu'elle ne veut pas se faire vacciner, donc vous pouvez questionner complètement son engagement, alors que ce type de conversation ne serait jamais arrivé sans le Covid.
Qu'est-ce qu'il en dit, Dylan?
Tout à fait, bien sûr, mais ça ne me serait jamais venu à l'esprit de poser ce genre de questions à ma sœur. Et c'est vrai que le Covid fait que maintenant, on se pose tout un tas de questions par rapport à notre famille ou même par rapport à nos amis, hein, qu'ils soient proches ou loin. Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? Moi, j'ai essayé d'appeler au maximum des amis pour savoir comment ils allaient, prendre des nouvelles de temps en temps. Parce que le confinement a fait que tout le monde, plus personne se voyait, quoi. Et c'est la solution claire et nette, le vaccin. Voilà, pour qu'on arrête de, pour plus qu'on se fasse chier, quoi. Excusez-moi du terme, hein. Mais c'est comme ça, hein. Faut le faire. Voilà.
Viviane, qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que psychiatre, dans cette gestion du conflit, d'éviter le sujet?
Alors déjà, entre guillemets, c'est pas de la psychiatrie. Là, on est en train de parler de la vie normale. Mm-hmm. Enfin, je veux dire, les conflits dont on se parle, c'est la vie normale. Là, c'est pas de la psychiatrie, c'est rien de malade. Enfin, je veux dire, on a le droit, je pense que là, ça se passe sur le Covid, mais enfin, les gens ont le droit de pas être d'accord sur pour qui on vote. Vous voyez, toutes les familles sont pas uniformes au niveau politique, par exemple. Il y en a qui ont des positions beaucoup plus radicales que d'autres. Enfin, vous voyez, les discussions dans les familles...
C'est pas grave de discuter, de pas être d'accord.
Alors, je pense que non, c'est pas grave, ça fait partie vraiment de la vie de pas être d'accord. Alors après, il y a le pas d'accord et le pas d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce qu'on peut discuter, et puis il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel qu'on ne peut plus discuter. Et je pense qu'effectivement, quand il commence à s'agir, je veux dire, vous êtes asthmatique, attraper le Covid, c'est quand même pas un bon plan, donc ça veut dire que vous avez quand même peur pour vous. Donc quand on commence à rentrer, puis ceux qui ont peur du vaccin, certains d'entre eux sont sérieusement persuadés que c'est dangereux. Donc ça veut dire, à partir du moment où on rentre dans cette sphère, d'un côté de l'irrationnel, parce que la plupart du gens ont des opinions, en fait, ils n'ont pas la formation scientifique sérieuse pour évaluer les risques. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent différentes télés, ou ils écoutent différentes radios, ou ils croient différents informateurs, mais ils ne sont pas en ligne directe. Donc, si vous voulez, c'est quelque part s'en rendre compte ou s'en rendre pas compte, mais c'est quand même des choix. Le choix de croire celui-ci ou de croire celui-là. en fonction de d'autres choses qui résonnent chez eux. Donc quand je pense que ça devient un sujet tellement important et tellement intime et tellement angoissant, je pense que prendre de la distance est probablement la bonne solution, en espérant que quand tout ça sera passé, au moins des choses irréversibles ne se seront pas faites. Donc je trouve que Dylan a raison.
Merci beaucoup Dylan d'être venu nous parler de ta famille et de ta relation avec ta sœur. On est avec Manuel qui nous appelle de Châtenois-les-Forges dans le territoire de Belfort. Bonjour Manuel.
Bonjour à tous.
Toi tu es comédienne Manuel, est-ce qu'on arrive à discuter de manière apaisée dans ta famille ?
Non.
Non.
De manière apaisée, je disais, nous c'est un peu bizarre que les trois enfants ils sont... Et en courant, dès que ça
alors Manuel, on va essayer de te rappeler parce que là on t'entend plus du tout pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à parler de manière apaisée. Viviane, on le disait, c'est pas forcément le Covid. Hein. Il peut y avoir des familles où ça n'a jamais tout simplement été apaisé.
Ah bah bien sûr, je pense et je suis. Enfin, je pense qu'on peut quand même dire que les conflits dans les familles ça existe et que le Covid, que ce soit dans les couples, dans les familles, entre les parents et les enfants, ne fait qu'accentuer les choses. Et je pense pas que ça va créer de toutes parts un conflit parce que quand on est harmonieux, on est quand même à peu près en phase. Et donc c'est toujours étonnant de voir des gens qui peuvent à ce point-là être déphasés alors qu'a priori ils ont quand même beaucoup de racines communes, si je puis dire.
On a retrouvé Manuel qui est toujours dans le territoire de Belfort.
Alors, Manuel.
Tu penses qu'il faut anticiper les réactions de chacun ?
Oui, ce que je disais, nous on a trois enfants et ils sont tout de suite allés se faire vacciner dès qu'il y a eu la possibilité, les jeunes, et on a les personnes âgées qui refusent de se faire vacciner chez nous.
D'accord.
Donc oui, voilà, ils ont plus de 80 ans tous les deux, ils veulent pas se faire vacciner, ça sert à rien, qu'ils voient personne. Et nous on a décidé à chaque réunion de famille, votre médecin avait tout à fait raison, sur les sujets importants, la politique, la religion, le reste, de dire au départ on s'aime. Voilà, on s'aime, on a une famille, on s'aime, et après on peut discuter. Donc le postulat de départ, c'est on s'aime. Et après on essaie de comprendre les uns les autres. On est.
Tu répètes ça avant chaque déjeuner ou chaque dîner, tu dis.
Voilà, exactement. On dit, on part du principe qu'on ne se fâchera pas pour ce genre de choses. Et puis on essaie d'écouter les points de vue de tout le monde, même si on ne les comprend pas, même si on essaie de faire argument contre argument, de parler de nos expériences et tout. Mais moi je crois que le conflit, c'est bon aussi, c'est bon la discussion, de discuter, de prendre les avis de tout le monde, parce qu'on est toujours surtout sur des sujets aussi importants, extrêmement tranchés, on vient avec ses convictions, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, nous, on essaie d'élargir, de parler de tout. Voilà, sur le Covid, on a vraiment un gros conflit, c'est que nous, on comprend pas que les gens ne veuillent pas se faire vacciner parce que nous, on n'a pas peur du Covid, on a peur du reconfinement parce que vous savez que les comédiens, on a été arrêtés pendant 18 mois.
Bien sûr.
Voilà, on n'a pas pu travailler. Donc nous, on ne comprend pas que les gens ne veuillent pas se faire vacciner tout simplement pour éviter le confinement. C'est pas même pas pour éviter d'attraper une forme grave, puisqu'on est très peu, je vais dire, touchés par ça, on espère en tout cas, mais on ne veut plus de confinement, donc on essaie de leur faire voir cet argument-là, de dire c'est pas forcément pour éviter la maladie, c'est pas forcément pour éviter la transmission, c'est parce qu'on ne veut plus être reconfiné une quatrième fois et qu'il faut sauver notre travail, qu'il faut qu'ils se mettent à notre place par rapport à ces gens qui ont été arrêtés, je pense aux restaurateurs, aux comédiens, enfin tous ces métiers qui ont été arrêtés pendant très longtemps. Et donc voilà, on essaie de faire voir cet argument qui n'est pas un argument, j'allais dire, de sensation. Et votre médecin avait tout à fait raison. C'est à partir du moment où on rentre dans l'irrationnel, là c'est comme la croyance, vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques.
Mais Manuel, c'est intéressant quand toi tu disais, parce que Viviane, Manuel elle dit on s'aime, ça veut dire qu'on doit fréquenter que des gens qu'on aime.
Mais je pense, je sais pas si c'est ce qu'elle veut dire là.
Je
pense que c'est une autre paire de manches. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est important de préserver. Et donc, si vous voulez préserver pour après, parce qu'au fond c'est ça, il faut pas aller trop dans le conflit. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend ce qu'on entend dans le conflit. Quand vous dites c'est bien le conflit, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a des niveaux de conflictualité. C'est-à-dire, il y a le conflit, on n'est pas d'accord, on discute, et ça peut être sympa, enfin c'est quand même chouette de pouvoir parler avec quelqu'un qui n'est pas d'accord quand même, sinon où est-ce qu'on va? Mais il y a le conflit vraiment dur, où les gens se blessent, se ferment, veulent plus voir, voilà, c'est ça qu'on ne veut pas. Donc je veux dire, il ne faut pas pousser le conflit jusqu'à une espèce de rupture où ça va être difficile de recoller les morceaux. Donc c'est tout l'art d'arriver à parler de choses dont on n'est pas d'accord, sans aller jusqu'à une rupture. Et je pense que c'est assez
intéressant,
surtout à l'intérieur d'une
famille, parce que une famille entre guillemets, bon, même si bien sûr chacun a son autonomie, c'est quand même important les liens familiaux. Et donc là, une rupture dans les familles, c'est quelque chose de très difficile ensuite à reconstruire. Donc c'est pour ça que je trouve que vos auditeurs, finalement, j'ai pas besoin de leur donner des conseils parce que
ils avaient géré très bien tout seul finalement les auditeurs. Viviane Covesmef. Masfeti, pardon, psychiatre et épidémiologiste, un grand merci d'avoir été avec nous sur RMC. Un grand merci à Manuel d'être venu nous parler de sa famille où on répète qu'on s'aime avant même de commencer à discuter, ce qui permet d'apaiser les relations. Dans un instant, on va parler d'Amazon avec Emmanuel Le Chypre et avec Laurent Neumann. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
RMC, midi 14h.
Neumann Le Chypre.
Neumann Le Chypre, pardon, le retour. On est ensemble jusqu'à 14h et on revit les meilleurs moments de Neumann Le Chypre. Alors peut-être que vous êtes à table, que vous êtes en pause déjeuner en train de nous écouter. On va parler de la tradition du repas. Selon une étude publiée dans Le Parisien, la crise sanitaire a fait changer les pratiques alimentaires. On mange désormais beaucoup plus tout seul et c'est pas du tout une honte. Certains s'ennuient à table et préfèrent regarder la télé. Le plateau série serait même une petite fête personnelle. Alors la tradition du repas familial à table se perd. Est-ce que ça vous inquiète, Laurent Neumann? Lui est très, très, très inquiet.
Ah non, mais moi, je suis surtout très, très, très dîner familial. Alors, c'est vrai que mes enfants ont quitté le foyer. Ils vivent leur propre vie maintenant. Mais quand ils étaient sous le même toit que nous, bah oui, le dîner, c'était un rituel, absolument. Il fallait dîner. Et quand je dis dîner, c'était dîner sans téléphone, dîner sans la télévision, dîner pour partager.
Donc, à table.
Oui, la table, tous les quatre, etc., avec des règles, absolument. C'était le moment où on se retrouvait pour échanger. Manger, partager, c'est ça un dîner familial. En plus, je pense que contrairement à ce qu'on dit, le dîner, c'est pas juste le dîner tous les quatre à table. Le dîner, il commence avant. Il commence quand on prépare le dîner, la cuisine. Il commence quand on met la table. Et il se termine même pas quand on a fini de manger, mais faut débarrasser. Donc,
ça dure deux jours.
Bah oui, c'est. Le dîner, c'est un ensemble de choses.
Tout le monde mange la même chose. C'est très important.
Et tout le monde mange la même chose, absolument, oui.
Emmanuel, chez toi, c'est le bazar.
On a eu toute la saison l'économie Belle des Champs. Maintenant, on a le dîner, la Miricorée. C'est-à-dire, en gros, c'est le paradis.
Non, c'est pas ça, c'est une pub Nutella.
Mais non, mais arrête, attends, tout le monde prépare le dîner, tous en famille. Et puis après, on débarrasse ensemble, on fait la vaisselle dans la bonne humeur, on a ri. On a tellement ri. Et passé un tellement bon moment. Sans la télé, sans les téléphones. Non, mais, alors, c'est et monsieur après, parfait, Laurent. Ça,
on
c'est
appelle
sûr.
Les
non, mais t'as le droit d'en rire. Hein.
Mais non, mais franchement, mais la réalité, Laurent, très bien si ça se passe comme ça. Mais la réalité, c'est pas celle-là. D'abord, le rapport à la nourriture, il a considérablement changé. On est passé, d'une économie de l'offre à une économie de la demande. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, les repas
à
table.
Même à table, tu fais l'économie.
Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait. C'est qu'à un moment, on était tous réunis à table pour manger ce que la nature nous offrait. Il n'y avait pas un choix illimité. Maintenant, il y a un choix absolument illimité. Deux, les emplois du temps aujourd'hui, je suis désolé, font que si tu as la chance d'avoir tes deux parents qui rentrent à la maison avant 18h, je pense pas que ce soit la majorité des familles. Donc le repas préparé, machin et tout, etc., où tout le monde mange à table, je pense que c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de familles? On fait manger les enfants d'abord, et c'est pas très grave, on peut discuter avec eux pendant qu'ils mangent. Et puis toi, avec ta femme, tu manges après, ce qui est très bien aussi pour ta vie de couple, parce qu'il y en a marre de des mômes qui bouffent toute ta vie, si tu veux. Et puis tu crois que les gens, ils ont des trucs intéressants tous les soirs à raconter?
Est-ce que tu crois
que les gens, le sacro-saint dîner de famille, mais là, réalité. Est-ce que les gens, ils ont tous les soirs des trucs intéressants à dire?
Bah, chez nous.
Non. Franchement, chez moi, c'est très intéressant. Mes journées sont très intéressantes.
Ah, oui. Mais bien sûr, tu demandes à ton gamin s'il a passé une bonne journée, il te dit oui, t'as mangé quoi à la cantine? Je sais plus. Enfin, tu vois, voilà, à un moment, ça, cette espèce de sacralisation, d'idéologisation sur pas de famille, moi, je veux bien. Et puis alors, est-ce qu'on est obligé de manger tous pareil? Franchement, non. Moi, je pense qu'on est obligé de manger sain. Ça, oui. Et moi, j'ai des enfants. Par exemple, ce week-end, j'en ai un qui adore la purée de céleri. J'en ai un autre qui la déteste et qui préfère les petits pois. Avec le même poisson, il y en a un, je lui ai fait des petits pois et l'autre, je lui ai fait la purée de céleri.
Je savais qu'on s'engueulerait sur la politique, mais je pensais pas qu'on allait s'engueuler là-dessus. C'est pas la peine
Tu es très méchant, Laurent Neumann.
Franchement, je trouve que cette histoire de repas de famille, c'est une bonne façon. On se dit, on fait nos repas de famille ensemble. Mais le reste du temps, qu'est-ce qui se passe?
Le reste du temps, est-ce que t'échanges? Le reste du temps, est-ce que tu partages des moments? Donc, je trouve que ce dédouaner avec genre, oh ben, on fait le repas de famille, etc. Ben, je pense qu'une fois que t'as fait ça, t'as pas tout fait. Et voilà. Et je pense qu'en plus, quand tu regardes, je termine avec ça, ce que disent beaucoup de psychologues non. que j'ai lus, ils te disent, mais surtout, faut pas aborder le soir les sujets qui fâchent.
Non,
ah bon?
Non.
Alors, à quoi, qu'est-ce de quoi on cause?
Non, mais je vais te dire, c'est
tu pas. Tu n'abordes pas les problèmes scolaires des enfants à table. C'est pas vrai, arrête, c'est pas bien pour eux.
Sociologiquement, c'est intéressant,
quand même.
Alors, Ronan Chastelier, vous êtes sociologue. Il y a quand même Emmanuel qui engueule Laurent parce que Laurent mange à table. C'est quand même sociologiquement intéressant.
À propos d'engueulade ou du dîner
Pourquoi il
y a aussi une sociologie du fight. On peut en parler. Mais je pense qu'effectivement, la sacro-sainte convivialité à table, etc., je crois que c'est une vision peut-être un peu idyllique. Et effectivement, les choses ont passablement changé. Déjà, il y a le téléphone à table. Enfin, je veux dire.
Interdit chez moi, totalement interdit. Ah bah vous faites comme vous voulez chez vous. Moi j'ai le droit de dire non, pas de téléphone à table.
C'est une pratique des Français, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de Français qui s'ennuient à table, il faut bien le dire. Puis les parents aussi donnent l'exemple. Parfois ils téléphonent, puis les enfants regardent les parents téléphoner, etc. Donc il y avait déjà le téléphone à table qui avait été un bon vieux coup de pied dans la convivialité familiale. Et là il y a effectivement le phénomène nouveau qui est Netflix plus Deliveroo égale plaisir solitaire, joie solitaire à table. Enfin, je cite deux marques parce qu'elles sont un peu iconiques, mais si vous voulez, il y a comme ça une envie chez beaucoup de gens de se construire une espèce d'anti-moment. La convivialité obligatoire, le collectif obligatoire après les longues périodes un peu ennuyeuses du confinement, il semblerait que ça ait donné ça, en fait. Dialectiquement, on est passé à quelque chose qui est, si on se faisait un pur plaisir solitaire, là, un espèce de plaisir antisocial assumé, voilà, c'est ça l'idée, en fait, qu'il y a derrière, mais qui va aussi de pair avec des dîners un peu plus conviviaux, etc. Ça ne veut pas dire que le repas antisocial va remplacer l'autre, qui est éminemment plus convivial.
Si la pratique du téléphone a autant explosé à table, c'est bien que les gens, ils n'ont rien à se dire. Tout le monde n'a pas la conversation de Laurent Neumann.
On n'a pas la conversation de Laurent Neumann, et ça, c'est clair. Voici désormais un des sujets de débat préférés de Laurent et Emmanuel. Amazon voudrait s'installer près du pont du Gard. Résultat, les habitants sont contre et ils ont manifesté à la fin du mois de mai dernier. Êtes-vous pour ou contre le développement du géant du net en France? C'était le débat du 30 mai. Pour Emmanuel, c'est oui, c'est bon pour le pouvoir d'achat et l'emploi.
Bah, moi, je pense que c'est une question qui se pose. Enfin, ça me paraît invraisemblable.
Ouais, je la pose quand même.
Mais oui, mais je veux dire. Non, mais qu'on se pose encore cette question, c'est quand même effarant. On peut pas aller contre le sens de l'histoire.
Ah bon?
Le sens de l'histoire, c'est quoi? C'est que t'as 70% des Français qui aujourd'hui achètent des biens sur Internet. Donc, tu peux dire tout ce que tu veux, que Amazon, c'est pas bien. Mais honnêtement, l'achat sur Internet, c'est l'avenir. Ça répond aux besoins des consommateurs. Et il n'y a pas que Amazon. Encore une fois, tout le monde croit que Amazon, c'est le grand méchant, etc. Je rappelle que Amazon, c'est que 1%, par exemple, du commerce en France. C'est un livre sur 10 seulement. Je rappelle que Amazon fait vivre beaucoup de petits sites qui sont des sites français, qui fabriquent des produits français. Donc, moi, je veux bien qu'on interdise Amazon, qu'on dise c'est mauvais pour le petit commerce, etc. Mais regardez ce qui s'est passé pendant la crise Covid, c'est très intéressant. Ceux qui s'en sont sortis et ceux qui s'en sont pas sortis. C'est pas la lutte des gros contre les petits, c'est pas le gros Amazon qui a mangé le petit commerce. Le petit commerce qui s'est digitalisé, et ça a été un des grands effets de cette crise, et tant mieux. Ils ont fait 20% d'augmentation du chiffre d'affaires. Tous les petits magasins, vous savez, sur toutes ces plateformes, notamment les plateformes organisées par les mairies, etc. Un, parce que tu vends plus par digital, et deux, t'as plus de gens qui viennent chez toi. Donc, 20% d'augmentation du chiffre d'affaires pour ces petits commerces qui sont digitalisés. Exactement comme Amazon. Donc, le vrai sujet, c'est est-ce que demain, ton commerce, il sera digital ou pas digital? Voilà, c'est tout. Mais penser que on va défendre le petit commerce, les petits commerçants et les emplois et le pouvoir d'achat en refusant qu'Amazon vienne en France, c'est totalement délirant. C'est has-been. Moi, je veux bien qu'on discute après de l'implantation. Peut-être que l'endroit est peut-être tellement beau que voilà, et qu'on peut-être implanter ailleurs. Enfin, ne pas vouloir par principe un entrepôt d'Amazon, c'est ne pas vouloir de l'emploi, c'est refuser des gains de pouvoir d'achat et du service pour les consommateurs.
Une précision, tu parles de l'endroit de la manifestation, hein, entre le Mont Ventoux et le Pont du Gard. Ceci dit, j'ai vu des banderoles lors de la manifestation qui disaient stop Amazon ici ou ailleurs.
Non, mais c'est ça qui est intéressant, parce que pour ne rien vous cacher, Vincent Nouzille, qu'on a entendu là, le président de l'association,
Primavera.
Il se trouve que je le connais très bien, c'est un grand journaliste économique,
pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de respect. Si son argument, c'est l'argument, c'est pas là qu'il faut le mettre, etc. Je veux bien l'entendre, mais si son argument, c'est Amazon, c'est destructeur d'emplois, c'est de l'esclavage, etc. Putain, je dis Vincent, reviens à la raison, quoi. Non, c'est pas possible.
Alors, je t'ai pas interrompu. Je t'ai pas interrompu. D'abord, l'implantation de cet entrepôt. Je suis allé regarder, c'est 14 hectares de terres agricoles qui vont être supprimées. Dans un département qui est dramatiquement touché par les inondations à cause de l'artificialisation des sols.
Et par le chômage.
Déjà, rien que pour cette raison, il est normal que localement, les gens se posent la question de savoir s'il faut encore plus artificialiser les sols au risque d'avoir encore plus d'inondations demain. Première chose. Deuxième chose, tu me dis Amazon c'est bon pour l'emploi.
Non.
Alors moi je suis allé consulter les deux dernières études dont on dispose. La dernière, la plus récente, c'est une étude du ministère du numérique. D'accord, elle date de 2018. Un emploi créé par Amazon, 2,2 emplois supprimés dans d'autres activités. Mais je me suis dit, oh là là, ça sent mauvais cette étude. Je vais quand même aller vérifier ce qui s'est passé aux États-Unis. Dernière étude en date, écoutez bien. Entre 2002 et 2016, d'accord, Amazon a créé 178 000 emplois dans le e-commerce. 448 000 emplois ont été détruits dans le même temps dans la grande distribution. Je ne parle pas des petits commerces, je parle dans la grande distribution. Donc est-ce que Amazon, ça crée de l'emploi ? Oui. Est-ce que ça en détruit ? Oui. Un emploi créé, trois emplois détruits. Troisième chose, ce que tu as volontairement sans doute omis de ta démonstration, mon petit Emmanuel, c'est que non seulement Amazon, c'est pas bon pour l'environnement et c'est pas bon pour l'emploi, mais je te fais la démonstration, quand tu veux, que c'est pas bon non plus pour les finances publiques. Parce que Amazon gagne énormément d'argent, et notamment pendant cette année du Covid où le chiffre d'affaires d'Amazon a explosé. Mais l'essentiel des gains d'Amazon en France, figure-toi, ils sont délocalisés vers le Luxembourg, et donc Amazon ne paye pas les impôts qu'il devrait payer en France. Pour ces trois raisons-là, moi, je suis désolé, je comprends les habitants du Gard qui disent non.
Mais attends, je peux pas laisser dire.
Tu vas avoir le temps de répondre.
Il y a
Daniel qui nous attend dans le Gard, justement.
Juste pour terminer sur le côté Amazon, c'est pas écolo. C'est totalement bidon, c'est totalement faux ce que tu dis. Amazon, c'est l'entreprise de commerce la plus écolo, et pour une raison très simple.
Non, mais
c'est
moi, je vais parler du Gard.
Mais moi, je vais te dire. Amazon, c'est très simple. Comment ça fonctionne ? T'as un camion qui va livrer 20 clients.
Ouais.
Et ben, je peux te dire
Amazon, c'est écolo.
Un seul camion qui va livrer. Et ben, je vais te dire, un seul camion qui va livrer 20 clients, c'est un peu plus écolo que 20 personnes qui prennent leur bagnole pour aller au centre commercial et aller acheter le produit qui se serait fait livrer par Amazon. Donc, qu'on me dise pas, si tu veux, que Amazon, c'est le grand ennemi
Amazon
de l'écologie.
Amazon,
on en parle tout de suite.
Emmanuel, on en parle tout de suite, mais je veux tout de suite
qu'on aille retrouver, rapidement, Daniel qui est dans le Gard. Salut, Daniel.
Oui. Bonjour tout le monde.
C'est bonjour Daniel, bienvenue sur RMC, sur RMC Story. Merci d'être avec nous.
Comme ça parce qu'on rigole,
hein,
des fois.
Bon. Et on est toujours de bonne foi.
Voilà.
Je vois que.
Non, on n'est pas toujours de bonne foi, mais on est toujours de bonne humeur.
Ouais, c'est ça.
C'est bien.
Toi, tu es à Beaucaire, dans le Gard.
Ouais, c'est ça.
Daniel.
Je suis à Beaucaire, dans le Gard. Donc, je suis pas loin du pont du Gard et donc cette implantation de cet entrepôt.
Eh oui. Bon.
Et moi, ce que je vois comme Manu au niveau de l'emploi. Je trouve que ça peut amener que du bien dans ce coin, parce que étant donné que toute cette région vit de la restauration, point de vue boulot, il n'y a pas énormément, donc ça fait toujours des emplois, et pourquoi pas plus, j'ai entendu 100, je croyais que c'est plus que ça.
Une centaine.
Alors manifester, moi je veux bien qu'on manifeste pour ce projet, mais moi je vois aussi, on va me parler de destruction des endroits, quand je vois ce qui a été fait au niveau du pont du Gard pour fabriquer tous ces parkings, qui a été dévastée, cette garrigue, autour de ce pont du Gard pour les touristes. Alors, je sais pas lequel est le mieux, je sais pas, je connais pas à fond cette histoire, mais moi, ce que je vois, c'est surtout l'emploi que ça peut dégager au niveau
de... Oh bah, Daniel, je te dis, la plus proche,
qui ouais. est Rémoulin, c'est beaucoup de restauration, il n'y a pas beaucoup de travail, dans ce coin. Après, il y a Avignon qui est pas trop loin et Nîmes, hein.
Daniel, juste pour te répondre, je t'ai donné le chiffre tout à l'heure.
Oui.
Ces entrepôts Amazon, à quelques encablures du pont du Gard, c'est 14 hectares de terres agricoles qui vont être supprimées. Voilà.
Oui, je suis d'accord. d'accord, je suis d'accord, mais après, c'est, voilà, c'est un choix.
14 hectares.
On en a besoin. Voilà, tout est discutable. Mais moi, ce que je vois, c'est l'emploi. Et qu'on arrête de dire mais... que ça va détruire énormément de choses.
Ah, bah, ça va créer des emplois dans le Gard, mais ça, on va en supprimer ailleurs.
C'est la fin de Neumann Le Chypre pour aujourd'hui et pour toujours. C'était un plaisir d'être avec vous cette saison. Je vous dis à très bientôt. Lundi, vous retrouvez Marie Régnier et Martin Bourdin. C'est bon de se retrouver midi 15h. Tout de suite, c'est le Tour de France avec Christophe Cessieux. Christophe, c'est une étape pour les sprinteurs, un jeu auquel Cavendish est très très fort.
Ah oui, plutôt pas mal effectivement depuis le début de ce Tour de France. Il en est déjà à 4 victoires d'étape, Mark Cavendish, et il tentera tout à l'heure de devenir le recordman absolu des victoires d'étape sur les routes du Tour avec 35 succès. Le peloton est en direction de Libourne. Il s'était lancé de Mourenx tout à l'heure. Il reste encore 138 km à parcourir et effectivement, Cavendish est le grandissime favori. On en parle dans un instant dans l'Intégral Tour jusqu'à 18h sur RMC.
RMC, midi 14h. Neumann Le Chypre.